Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Ligne droite avec Alexandre de Galzin.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Il est 7h et la ligne droite, la matinale de Radio Courtoisie commence. Aujourd'hui, je suis accompagné de Julie Solveig. Julie Solveig, bonjour.
Bonjour Alexandre.
Et également Arnaud à la technique. Bonjour Arnaud.
Bonjour Charles-Alexandre, bonjour à tous.
Je crois que nous serons rejoints par Richard de Cesse durant la matinale. Voilà, donc une nouvelle matinale, toujours la même équipe que vous appréciez. Alors aujourd'hui, on va traiter de divers sujets différents, à commencer par 500 000 migrants, le projet fou des socialistes espagnols, un demi-million de migrants clandestins à régulariser. C'est ce que cherche à faire Pedro Sanchez. On en parlera avec Raphaël Emma. Et puis à 7h25 pour le grand entretien, nous parlerons d'Atanor, les francs-maçons assassins. Effectivement, c'est une cellule franc-maçonne qui a été impliquée dans diverses barbouzeries. C'est un sujet qu'on évoquera avec Serge Abad-Gallardo. Plus tard, à 8h20, nous recevrons Solange Doumic, avocate dans le procès Lafarge. Procès Lafarge, je rappelle, ce cimentier qui était soupçonné de financer l'État islamique pour pouvoir se maintenir dans la région. Et puis, entre autres chroniques, à 9h05, nous recevrons Nicolas Delange, qui nous parlera des Gaulois, notre mythe fondateur, revenir un peu à nos racines. Voilà, et c'est l'auteur notamment de Découvrons-nous Gaulois, un très joli programme qui sera introduit par un point sur l'actualité avec Julie Solveig. Alors Julie Solveig, comme d'habitude, nous débutons avec des nouvelles du conflit en Iran.
Oui, alors que le blocus naval américain se poursuit, l'Iran menace désormais de bloquer l'ensemble des grandes routes maritimes régionales du Golfe Persique jusqu'à la mer Rouge. Il s'agit d'une déclaration officielle de l'armée iranienne qui évoque la possibilité d'empêcher toute circulation commerciale dans ces zones stratégiques. Sur le plan diplomatique, des tentatives de médiation se poursuivent. Le chef de l'armée pakistanaise est arrivé à Téhéran pour tenter de relancer des pourparlers. Depuis la France, la hausse du prix du pétrole inquiète de plus en plus les Français. Maud Bréjon affirme que le gouvernement travaille à la réouverture du détroit d'Ormuz, tandis que le ministre de l'économie s'exprimait ainsi depuis Washington.
Est-ce que la France est d'accord avec le fait de payer un droit de passage pour transiter dans le détroit d'Ormuz ?
Nous payons déjà, tout le monde paie. Donc tout ce qui peut permettre au pétrole de naviguer librement est le bienvenu. Mais il y a une grande réserve.
Nous pensons que les lois internationales concernant la circulation maritime doivent être appliquées. Il s'agit d'un détroit international, il doit être libre. Nous n'aimons pas l'idée d'avoir un péage dans un lieu qui devrait appartenir à nous tous.
En parallèle, les négociations entre Israël et le Liban se poursuivent à Washington. L'ambassadeur israélien parle d'excellents échanges, alors que dans le même temps, Tel Aviv annonce avoir visé plus de 200 cibles dans le sud Liban ces dernières 24 heures.
Alors profitez bien de ces brefs, car nous pourrions bien ne plus avoir le droit de critiquer la politique israélienne, chère Julie.
Oui, malgré 700 000 voix citoyennes contre la proposition de loi portée par la députée Renaissance Caroline Yadan, la pétition ne sera finalement pas examinée dans l'hémicycle. Rappelons que ce texte de loi pourrait restreindre drastiquement la liberté de critiquer Israël ou sa politique. Pourtant, dans un contexte géopolitique aussi tendu, la nécessité de débattre et de rester critique vis-à-vis des puissances étrangères semble évidente. Plusieurs voix, notamment issues de la droite nationale, dénoncent une dérive carrément liberticide, estimant qu'empêcher ou encadrer la critique d'un État est difficilement défendable, surtout lorsqu'on parle de la prétendue seule démocratie du Moyen-Orient. Les soutiens du texte rétorquent qu'il s'agit de répondre à une évolution de l'antisémitisme parfois dissimulée derrière des discours antisionistes, comme si critiquer la politique d'un État renvoyait directement à une quelconque haine. La loi Yadan devrait être examinée d'ici la fin du mois. Espérons que nos élus se soucieront un peu de la liberté d'expression.
Puis Éric Ciotti interpelle l'exécutif.
Oui, le maire de Nice appelle Emmanuel Macron à rétablir le contrôle à la frontière franco-espagnole après le lancement par Madrid d'un vaste plan de régularisation pouvant concerner environ 500 000 sans-papiers. Ce décret alarmant et, disons-le, assez peu démocratique entrera en vigueur à partir du 20 avril. Il concernera les étrangers présents en Espagne avant le 1er janvier 2026. Si le gouvernement espagnol de Pedro Sanchez assume cette mesure avec de redondants et poussiéreux arguments économiques et humanitaires, les réactions ne se sont pas faites attendre de la part de l'opposition. Les politiques ne sont d'ailleurs pas les seuls à monter au créneau. Des agents de l'administration migratoire espagnole menacent de faire grève, estimant ne pas avoir les moyens d'absorber l'afflux de dossiers. À ce stade, pas de réponse officielle de l'Élysée à la demande d'Éric Ciotti, mais politiquement, le sujet est relancé. La régularisation espagnole devient déjà, en France, un nouveau test sur Schengen, les frontières et la souveraineté migratoire. Nous en parlerons plus longuement dans un instant avec Raphaël Emma.
Et enfin, un député RN s'empare de la polémique autour d'un magnet du blason rouennais.
Depuis le début de la semaine, c'est la polémique à Rouen après la découverte d'un blason détourné en vente dans une boutique de souvenirs. Le blason représente les armes de la ville de Rouen, mais changé. Un agneau décapité, une croix chrétienne brisée et une fleur de lys remplacée par un croissant islamique. Le produit a été retiré suite au scandale et l'imprimeur évoque évidemment un ancien stagiaire, comme s'il ne passait pas devant tous les jours. Mais l'affaire prend maintenant une tournure judiciaire. Le député RN Robert Lebourgeois annonçait hier saisir le procureur de la République et dénonce un acte très inquiétant. L'élu pointe aussi l'absence de réaction du maire dans les premières heures. Ce détournement des armes de Rouen est très clairement une provocation directe contre des symboles chrétiens et français, alors que ces atteintes se multiplient et que les autorités peinent à réagir clairement, ou plutôt font les aveugles. Ce n'est pas une maladresse, c'est l'islamisation jusque sur les symboles de nos villes.
Côté sport, vous nous emmenez du côté du Mont Blanc.
Oui, là où un intrépide quatuor d'alpinistes français a ouvert une nouvelle voie sur la redoutée face nord des Grandes Jorasses. Après une première tentative à Troyes en décembre dernier qui s'était brutalement arrêtée au bout du deuxième jour, l'équipe de choc a retenté sa chance avec succès cette fois-ci. Après 4 jours et 3 nuits d'efforts, les 4 courageux alpinistes âgés entre 23 et 28 ans ont atteint le sommet des Grandes Jorasses qui culmine à 4208 mètres. Clin d'œil final de cette rude ascension, ils ont baptisé cette nouvelle voie tracée la Jurassic Pack.
Bravo pour le jeu de mots. Et puis pour ce qui est de la météo.
Aujourd'hui, temps calme avec de belles éclaircies dans la moitié nord et des températures en hausse. Beau soleil en Nouvelle-Aquitaine et en région PACA. Côté température, nous pourrons relever ce matin 10 à Lille, 8 au Mans, 7 à Chartres, 10 à Paris et 11 à Cherbourg. Dans l'après-midi, les maximales seront de 20 sur le Grand Est, 17 pour les Hauts-de-France, 15 en Normandie, 19 en Île-de-France et de 21 à 25 autour du Golfe du Lion. Le soleil s'est levé à 6h58, se couchera à 20h43. Nous gagnons 3 minutes d'ensoleillement et nous célébrons en ce 15 avril, Saint-Benoît-Joseph Labre et Saint-Drion.
Merci, Julie Solveig.
Ligne droite.
Mais vous restez avec nous pour votre décryptage.
Pour ce décryptage, nous allons revenir ensemble sur les violences au sein du périscolaire parisien. Après la révélation de ce scandale sans nom, l'heure est désormais à l'identification des responsables, ceux qui ont laissé faire en fermant tout bonnement les yeux. On a ainsi appris hier, dans un article du Figaro, qu'une plainte a été déposée au parquet de Paris par maître Julien Rollins, avocat d'une famille de victimes, contre l'émission de service public Cache Investigation, ses producteurs et sa présentatrice, Élise Lucet. Le motif de la plainte ? Non-dénonciation aux autorités administratives ou judiciaires de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sur un mineur. L'information a priori peut étonner. Pour comprendre ce qui a motivé cette plainte, il faut revenir quelques mois en arrière, à la date très précise du 29 janvier 2026. Ce jour-là, Cache Investigation diffuse son reportage périscolaire, établissement privé, enquête derrière le portail de nos écoles. L'émission fait l'effet d'une bombe. Parents et téléspectateurs découvrent pour la première fois ce qu'il se passe réellement au sein de l'école maternelle publique Saint-Dominique, située dans le 7e arrondissement de Paris. Les images, tournées en caméra cachée, montrent des violences physiques et psychologiques, des privations et, à minima, une agression sexuelle commise sur des enfants âgés de 3 à 5 ans. Après ces révélations choc, plusieurs enfants ont levé le voile sur d'autres faits d'agression sexuelle et de viol. Vous pourriez alors me demander pourquoi une plainte a été déposée contre cette émission qui s'est révélée salvatrice. Eh bien tout simplement parce que les images de cette émission diffusée le 29 janvier 2026 ont été tournées au printemps 2025. En clair, 9 mois se sont écoulés entre les violences filmées à l'école Saint-Dominique et la diffusion du Cache Investigation. 9 mois durant lesquels les enfants ont continué être agressé ou violé. Maître Julien Rollins estime aujourd'hui que si les violences constatées par les journalistes avaient été signalées dès le mois d'avril 2025, les animateurs concernés auraient pu être suspendus beaucoup plus tôt. Car le petit garçon de 5 ans que représente l'avocat et plusieurs autres enfants de l'école Saint-Dominique affirment avoir subi, depuis cette période, des actes de nature sexuelle dans le dortoir du premier étage à l'heure de la sieste. Contactée par le Figaro, la rédactrice en chef de Cache Investigation conteste, elle, tout manquement. Alors nous avons joint maître Julien Rollins pour démêler le vrai du faux. Et voici ce qu'il nous a expliqué. Cash Investigation avait des images enregistrées en caméra cachée dès le mois d'avril 2025 sur lesquelles on voit des maltraitances et une agression sexuelle. Ces faits ont suffi à provoquer la suspension immédiate de toute l'équipe périscolaire après la diffusion du reportage. Si les journalistes avaient signalé ces faits aux personnes compétentes, l'équipe aurait donc en principe été suspendue dès le mois de mai 2025 et les horreurs qui se sont produites jusqu'à fin janvier 2026 n'auraient pas pu avoir lieu. Il se trouve qu'il y a un article du Code pénal qui impose pour quiconque ayant connaissance de maltraitance, de privation ou d'agression sexuelle infligée à un mineur d'en informer les personnes compétentes. Et cela, indépendamment de tout secret professionnel. Un avocat, un journaliste, un médecin doit le faire aussi. La qualité de journaliste n'est en aucun cas une exception à ce principe. Fin de citation. D'un point de vue légal, c'est donc potentiellement à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende que sont aujourd'hui exposées les équipes de Cash Investigation. Mais la vraie question se situe sur le plan humain. Comment des journalistes ont pu faire le choix de ne rien dire, simplement pour sauver leur émission de divertissement? Comment ont-ils pu accepter de laisser pendant 9 mois ces enfants auprès de leur bourreau, en sachant qu'ils auraient pu les protéger depuis le début? Le temps est désormais compté, car malgré le scandale, de nombreux enfants continuent à subir des horreurs dans les couloirs des maternelles. Depuis le début de l'année 2026, pas moins de 78 animateurs suspendus, dont 31 pour suspicion de violences sexuelles.
Merci Julie Solveig pour votre travail, et puis on vous retrouve dans quelques minutes.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, nous recevons Raphaël Emma, porte-parole de Télésoun et du mouvement Justice pour les Nôtres. Raphaël Emma, bonjour.
Bonsoir Alexandre.
Alors, aujourd'hui, nous vous recevons pour parler de l'Espagne, un pays que vous connaissez particulièrement bien. Espagne dans laquelle Pedro Sanchez, le Premier ministre, a pris une décision qui est tout de même assez étonnante d'une certaine façon. Régulariser 500 000 clandestins, 500 000 sans-papiers. Comment expliquer cette décision qui est tellement à rebours de la tendance générale en Europe, une régularisation aussi massive ?
Tout à fait. Alors, pour commencer un petit peu cette chronique, au risque de vous faire mal aux oreilles, j'aimerais bien vous citer Jean-Jacques Rousseau, qui disait « Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher loin dans leurs livres des devoirs qu'ils dédaignent de remplir autour d'eux. Tel philosophe aime les tartares pour être dispensé d'aimer ses voisins. » Alors, en effet, le gouvernement socialiste espagnol, qui est en place depuis 2019, avec d'ailleurs un certain nombre de magouilles politiques et d'alliances avec des forces indépendantistes, séparatistes qui ont été pas mal pointées du doigt, a annoncé en janvier de cette année qu'il allait régulariser presque un demi-million de sans-papiers en Espagne, un demi-million de sans-papiers en Espagne, dont la seule condition de régularisation était de justifier une résidence d'au moins 5 mois sur le territoire espagnol depuis avant décembre de l'année dernière. Donc, non content d'annoncer ce plan de régularisation, le gouvernement socialiste espagnol a fait passer ce plan par ce qu'on appelle un décret royal. Donc, le décret royal, c'est prévu dans le droit constitutionnel espagnol. C'est un peu, si on voulait comparer en France, un espèce de 49-3. En tout cas, c'est quelque chose qui permet de s'épargner le vote du Parlement. Donc, c'est assez, ça peut prêter à sourire de voir que les socialistes espagnols en font appel au pouvoir royal pour mettre en place donc leur fou projet migratoire. Et donc, ce plan de régularisation de 500 000 sans-papiers, il a été invoqué, comme à chaque fois que une thématique de ce type-là est posée sur la table, avec les éternels arguments soporifiques, économiques de natalité. Alors, l'Espagne, c'est à l'heure actuelle l'une des économies les plus dynamiques de l'Union européenne. C'est la quatrième économie de l'espace européen. Mais le gouvernement socialiste a quand même invoqué cet argument économique. Il a aussi invoqué, évidemment, l'argument de la natalité qui était en berne. Alors, pour appuyer un petit peu son projet, il a fallu que le gouvernement cherche un soutien populaire, et donc il y a eu un référendum, pas tout à fait un référendum, mais plutôt une collecte de signatures, de pétitions, un peu comme ce qui permettrait de lancer des référendums d'initiative populaire. Et donc, pour récolter 600 000 signatures pour appuyer ce projet, le gouvernement espagnol a fait appel à des alliés pour le moins étonnants. Alors, déjà, le patronat, un certain nombre d'organisations patronales se sont alignées, qui seraient équivalentes au MEDEF en France, se sont alignés sur les aspirations du gouvernement socialiste espagnol et ont contribué justement à faire circuler cette pétition. Mais vous avez aussi eu, hélas, hein, à mon grand dam, je suis catholique, des officines reliées à l'Église, comme par exemple l'association Caritas. D'ailleurs, l'épiscopat espagnol s'est félicité de la mesure. Donc, c'est l'alliance du curé, du socialiste et du patron pour faire venir un demi-million, enfin, ou du moins régulariser un demi-million de clandestins dans le pays. Alors, moi, ce que m'inspire cette situation, évidemment, bon, on peut l'analyser, on peut s'en inquiéter, puisque l'Espagne étant dans l'espace Schengen, ça va être un défi aussi français. On peut s'inquiéter aussi, d'une certaine manière, du phénomène de fuite en avant. Hein, c'est-à-dire que si un plan aussi massif passe, c'est un pied dans la porte qui permettra à l'Espagne, peut-être, toujours sous ce gouvernement socialiste, de poursuivre des politiques de ce type-là. Et enfin, je pense que ça nous interroge un petit peu collectivement sur une absence d'ambition politique de nos élites cosmopolites. En ce sens que quand nos élites remplacistes voient un enjeu d'économie ou un enjeu de natalité, au lieu de mener des politiques de réindustrialisation ou de natalité, précisément, elles préfèrent trouver la solution magique de la régularisation massive. Régularisation massive, politique absolument suicidaire, qui se fait évidemment au détriment de quelque chose qui est impalpable, qui ne peut pas se compter en termes de points de croissance ou de PIB, qui est tout simplement l'avenir d'un peuple et d'un pays.
En l'occurrence, Raphaël Emma, simplement, un point qui est important de souligner, c'est que parmi ces 500 000 clandestins, la plupart viendraient d'Amérique du Sud. Et justement, à ce sujet, la droite espagnole, jusqu'à Vox d'ailleurs, est assez divisée sur la distinction à opérer entre les migrants d'Amérique du Sud et les migrants, quelque part, qui viennent plutôt du Maghreb ou d'Afrique.
Je me permets de faire un peu un aparté sur ça parce que c'est une question qui est intéressante et d'autant plus depuis le point de vue français où on n'est pas forcément habitué à l'immigration sud-américaine et qu'on pourrait peut-être penser parfois moins problématique que l'immigration subsaharienne ou maghrébine. Effectivement, l'immigration sud-américaine peut avoir un peu plus de proximité culturelle avec l'Europe. En revanche, elle peut être, comme toute forme d'immigration, y compris intra-européenne, dans certaines proportions, tout aussi problématique. Vous avez aujourd'hui des quartiers de Madrid qui sont connus pour être des quartiers d'immigration sud-américaine et pour être tout simplement plus à l'image de la capitale. Je pense notamment au quartier de Lavapiés. Je pense aussi à des problématiques de crime organisé qui sont attenantes à l'immigration sud-américaine. Hein, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de narcotrafics qui se sont exportés en Espagne. Vous avez ce qu'on appelle des bandas latinas qui sont comparables un petit peu aux gangs latino-américains qu'on pourrait trouver en Amérique. Donc, il ne faut pas penser que parce que c'est l'immigration sud-américaine, ça se passerait mieux. Et je me permets aussi de rebondir sur ça, l'Irlande avait annoncé elle-même des plans de régularisation ou d'accueil de réfugiés par un gouvernement d'ailleurs allié à celui du... un gouvernement socialiste allié à celui du PSOE espagnol. Les Irlandais avaient été bien surpris de voir qu'on leur avait promis des régularisations d'Ukrainiens et c'était des Afghans qui étaient arrivés. Donc, que sur le papier, ça concerne l'immigration sud-américaine, nous n'avons pas réellement de gage à cet égard-là. Mmh. Je crois que, en tout cas, la leçon politique sur laquelle on doit se concentrer, c'est que, de toute façon, quelle que soit la nature de cette immigration-là, on ne sacrifie pas une nation pour quelques points de croissance.
Oui, et alors d'une certaine façon, ce qui est assez même surprenant dans toute cette affaire, c'est que le Conseil d'État, lui, donc pour le coup, on connaît la propension au juge français à être favorable à l'immigration. En l'occurrence, même le Conseil d'État espagnol trouvait que Pedro Sanchez allait trop loin et a inclus une clause donc dans le projet de Pedro Sanchez qui était eh bien une absence de casier judiciaire voilà dans la période des 6 derniers mois. Donc enfin c'était quand même une mesure minimale, mais que déjà Pedro Sanchez que Pedro Sanchez a vécu comme une défaite.
Tout à fait, et un petit peu autre chose qui, moi, personnellement, m'a fait sourire quand je préparais cette émission. Vous avez un certain nombre d'ONG qui ont plutôt immigrationnistes, enfin des ONG immigrationnistes, qui elles-mêmes ont alerté sur les difficultés techniques de ce plan de régularisation, parce que vous avez un certain nombre de régularisations qui n'aboutissent pas en Espagne, tout simplement à cause d'irrégularités sur les dossiers, d'irrégularités techniques, d'incapacité à justifier. Donc, même les ONG disaient « Non mais attendez, face à cette proportion, il va falloir bien s'organiser les gars ». Si vous voulez, l'équivalent d'Utopia en Espagne, des assauts immigrationnistes françaises en Espagne sont elles-mêmes en train de dire on va avoir une sacrée pile de dossiers à traiter. C'est que vous allez un petit peu loin, en effet.
Autre question un petit peu dans ce genre un peu de celle qu'on a posée auparavant, mais l'Espagne, ça a toujours été un pays par lequel les migrants traversaient, plutôt pour se rendre finalement en France ou alors dans d'autres pays européens. L'Espagne a longtemps été plutôt une route, raison pour laquelle c'est un pays qui reste quand même plus préservé que la France en termes de grands remplacements. Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, va se modifier dans les années à venir?
C'est quelque chose qui est déjà en train de se modifier. Alors, je vous le dis à la fois d'observation politique, mais aussi un peu d'observation empirique. Je ne cache pas le fait que je voyage assez régulièrement en Espagne. Aujourd'hui, vous avez des villes en Espagne qui n'ont absolument rien à envier à des villes françaises. Moi, je pense notamment à Barcelone. Barcelone, ça n'a rien à envier à Marseille, hein, et avec tout l'amour que j'ai pour Marseille. Et puis, de façon générale, vous avez aussi des actualités autour de la question de l'immigration qui agitent le pays de plus en plus. On oublie peut-être, mais que l'été dernier, vous avez eu des conflits sur fond de questions identitaires dans la ville de Torre Pacheco, des affrontements très violents suite au tabassage par des jeunes issus de l'immigration extra-européenne d'un vieil espagnol. Vous aviez eu des mouvements sociaux identitaires absolument énormes et qui avaient un petit peu transcendé l'actualité politique nationale. Donc, effectivement, aujourd'hui, ensuite, vous avez un certain nombre de travaux. Moi, je pense à une carte qui a été réalisée par la Gazette ES, qui permet de cartographier justement l'immigration en Espagne. Et vous avez des quartiers où l'immigration est en Espagne. Et je pousse même un petit peu plus loin. L'Espagne est peut-être un peu plus en avance que nous sur l'immigration en zone rurale.
D'accord.
Parce que l'immigration maghrébine, marocaine, essentiellement, a tendance à se concentrer en zone rurale. Ces zones rurales espagnoles étant particulièrement dépeuplé. Aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle l'Espagne vacía, l'Espagne vide, de ces villages abandonnés pour au profit des trois grandes villes du pays et des grandes villes du pays. Mmh. Et dans ces villages-là, ça peut rapidement être en situation de remplacement. Donc non, l'Espagne est loin d'être préservée. De toute façon, aucun pays d'Europe ne le sera sur une certaine ligne de temps.
Il nous reste juste une minute, Raphaël Image. Ce que j'aimerais bien savoir aussi, c'est quelles sont les réactions en une minute du PP et du parti Vox.
Alors, le Parti Populaire et Vox s'opposent à l'initiative. En revanche, comme le souligne le gouvernement, le Parti Socialiste, des plans de régularisation de ce type-là, alors pas dans ces proportions évidemment, mais ont été mis en place par le Parti Populaire. Donc, la droite libérale, le centre-droit est toujours au rendez-vous, mais bon, la prise de position du PP est un peu hypocrite. Et Vox, évidemment, s'y oppose. Ceci dit, voilà, avec les débats que vous citez en interne sur la place que l'on doit accorder à l'immigration sud-américaine dans ce pays, puisque notamment l'immigration sud-américaine a tendance à voter Vox, ce qui, du coup, pose des questions un petit peu électoralistes. En tout cas, les identitaires espagnols défendent évidemment de... ne pas discriminer notre opposition à l'immigration.
Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Raphaël Emma, pour ce tour de situation. Et bien, en fait, assez complet. Et c'est intéressant de voir ces débats internes avec des immigrations différentes. On voit que finalement, ça mène toujours au même problème à la fin des fins. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et on vous dit à une prochaine ici sur Ligne Droite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, il est 7h24, à 8h20, je rappelle que nous recevrons Maître Solange Doumic, qui nous parlera du procès Lafarge, donc au sujet de cette entreprise, de ce cimentier qui avait travaillé avec l'État islamique. Mais tout de suite, nous recevons Serge Abad Gallardo pour nous parler d'Atanor et des francs-maçons assassins.
Ligne droite. Le grand entretien.
Pour ce grand entretien, nous allons parler donc de l'affaire Atanor, chers auditeurs. Alors, qu'est-ce que l'affaire Atanor ? Eh bien, alors, Atanor, c'est non seulement un terme d'alchimie, mais c'est également affaire qui est liée à certains barbouzes de la DGSE, une affaire qui semble tout droit sortie des années 60, 70, 80, 90, comme vous le voulez, enfin, d'il y a une affaire d'un autre siècle, dirais-je, une affaire d'un autre siècle, car effectivement, c'est l'histoire, eh bien, d'une loge maçonnique membre de la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française, basée à Puteaux, et qui, eh bien, a été impliqué dans une dizaine d'affaires criminelles, et pas n'importe lesquelles. On parle d'affaires d'assassinat, on parle de tabassage, on parle, eh bien, d'intimidation, on parle de nombreuses tentatives d'assassinat également. Enfin bref, tout cela se situe également dans donc cette, comme je disais, je rappelle le nom, hein, la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française. Grande Loge de l'Alliance maçonnique française qui avait été fondée par Alain Juillet en 2015, si je ne m'abuse. Je vérifie simplement ma propre information. Voilà, en 2012, pardon, effectivement. Voilà, en 2012 jusqu'à 2015, dirigé par Alain Juillet. Et puis après, qui a eu divers grands maîtres. Et cette loge elle-même, donc... cette loge, eh bien, elle recrutait beaucoup parmi la DGSE. Je rappelle que Alain Juillet lui-même était l'ancien patron de la DGSE. Et actuellement, eh bien, au procès Atanor, les personnes qui sont impliquées sont des personnes anciennes également de la DGSE. Certaines viennent du service action, d'autres viennent un petit peu de sous-traitants de la DGSE, si j'ose m'exprimer ainsi. Et cette affaire Atanor, finalement, elle est en train d'être jugée ces temps-ci, et elle a des ramifications qui sont évidemment bien plus nombreuses qu'on le soupçonnait à l'origine. Alors, on retrouve notamment, eh bien, une affaire d'une voiture volée, hein, ça commence ici, celle de la présidente d'un syndicat professionnel, Marie-Hélène Dini, qui avait également subi, et là on passe à un autre stade, un contrat d'assassinat, pour un montant de 70 000 euros, contrat d'assassinat qui aurait été, eh bien, déposé par un chef d'entreprise qui craignait que son entreprise ne fasse face à la création d'un syndicat. Autre affaire qui date déjà de 2012, c'est la tuerie de Chevaline. Tuerie de Chevaline, donc un quadruple assassinat. Et en 2021, eh bien, en fait, on retrouve des ramifications entre la tuerie de Chevaline et cette affaire Atanor. À nouveau, 2014, affaire de Saint-Maur défaussé. Henri Plagnol, qui a été donc secrétaire d'État de Jacques Chirac, lui... En 2014, eh bien, aurait fait, encore une fois, appel à cette cellule Atanor dans le but de faire surveiller un de ses concurrents à la mairie de Saint-Maur-des-Fossés, donc concurrence particulièrement importante étant donné que son opposant a finalement gagné l'élection, mais enfin, voilà. Je retrouve tout de suite Serge Abad-Gallardo. Serge Abad-Gallardo, bonjour, est-ce que vous êtes bien avec nous ?
Bonjour, je vous remercie pour votre invitation et je peux compléter ce que vous venez de dire sur la loge Atanor par un témoignage et un exemple un peu différent, mais qui se rapproche largement.
Allez-y, écoutez, on vous écoute, Serge Abad-Gallardo.
Voilà, écoutez, d'une part, la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française est une émanation de la Grande Loge nationale française. Donc c'est, on va dire, des maçonneries qui s'estiment comme la plus orthodoxe. Pardon. D'autre part, j'avais un ami qui était procureur de la République et qui était également franc-maçon et qui, un jour, apprend qu'une personne va être admise certainement dans la loge à laquelle il appartenait. Il prend la parole pour donner des renseignements sur cette personne en expliquant qu'il est chargé d'enquêter sur cette personne, que cette personne fait partie du grand banditisme et que cette personne a du sang sur les mains. Et il prévient la loge en disant que si cette personne devait rentrer et être acceptée en franc-maçonnerie dans cette loge en particulier, eh bien, il démissionnerait. La réponse de la loge a été quasiment unanime, en particulier par la voix du vénérable maître, eh bien, si tu veux, va-t'en.
Alors, Saint-Germain de Gallardo, j'ai pas pris le temps simplement de le rappeler, mais vous êtes ancien haut fonctionnaire territorial, ancien membre des loges maçonniques du droit humain, auteur de plusieurs ouvrages, dont La franc-maçonnerie chrétienne, une imposture, paru l'année dernière. Donc, vous connaissez justement bien la franc-maçonnerie de l'intérieur, si je ne m'abuse, vous avez été vous-même vénérable maître. On voit dans cette affaire Atanor une implication particulièrement importante de la DGSE, donc la grande loge de l'Alliance maçonnique française. Elle a été initiée bien par a été créée par Alain Juillet, qui lui-même, si je ne m'abuse, était ancien membre de la DGSE. Est-ce qu'il y a un lien qu'on peut faire directement quelque part entre présence à la DGSE ou dans des services, dans des services d'action quelque part et public, ou et justement le fait d'appartenir à la franc-maçonnerie.
Eh bien, ça n'est pas automatique, mais il est vrai que les loges maçonniques sont très recherchées par, on va dire, certains personnages appartenant à certaines officines, voire à certains services de l'État. Il y a énormément de francs-maçons dans la préfectorale. Il y en a beaucoup également au ministère de l'Intérieur et en particulier parmi les commissaires des différents départements et communes. Mmh. Il y a beaucoup également de hauts gradés de l'armée. Il est vrai que la franc-maçonnerie, toutes obédiences confondues, est une sorte de maillage qui est opérant et donc qui concerne parfois des élus, parfois des personnes qui comptent, on va dire, dans la société. Et donc, c'est une source de renseignement qui n'est pas négligeable, à tel point, par exemple, que tous les ans, il y a un travail qui est fait par toutes les loges sur des thèmes qui sont prétendument des thèmes de société, mais qui sont souvent des thèmes plutôt politiques, je dirais politiques au sens noble, bien entendu. Et ce travail donne lieu à un rapport qui concerne toutes les loges de France, et ce rapport est transmis ensuite aux représentants de l'État et à tout député qui souhaiterait en avoir communication. Mmh. Donc c'est vrai que c'est une source de renseignement, et bon, moi, je peux témoigner que dans une des loges que j'ai fréquentées, il y avait, même dans plusieurs loges, j'ai vu des gens qui appartenaient aux renseignements généraux.
Alors, est-ce que justement, le fait d'appartenir à la DGSE, à la DGSI, à ce genre d'institution, c'est quelque chose qui va être utile en interne à la franc-maçonnerie, ou au contraire, c'est justement ces francs-maçons qui sont présents, par exemple à la DGSE, etc., qui vont s'en servir pour se bâtir un réseau quelque part et croître à l'intérieur de la franc-maçonnerie. Ou est-ce que la franc-maçonnerie exploite quelque part les informations ou les compétences détenues par justement ces agents de la DGSE, par exemple ?
Eh bien, écoutez, ça fonctionne dans les deux sens. Mmh. D'une part, j'imagine bien que tout service de renseignement peut utiliser la franc-maçonnerie pour avoir justement des renseignements et des systèmes de réseau. Mais également, du fait de ce que l'on appelle, et qui fonctionne très bien d'ailleurs, la fraternité maçonnique, les francs-maçons peuvent demander à ces gens-là des divers services.
Et à partir de justement de cette fraternité, là en l'occurrence, on voit quelque chose de très particulier sur l'affaire Atanor, c'est que il y a tout un système qui est mis en place donc par ce groupement maçonnique, ce système qui est mis en place va mener à des tentatives d'assassinat, à des intimidations, va mener finalement à de très nombreuses violences. Et donc, justement, et tout ça en plus pour de l'argent. Comment vous avez vu cette affaire Atanor, finalement, dont j'ai parlé un petit peu en introduction? Comment est-ce que vous l'avez comprise, analysée à travers votre connaissance de la franc-maçonnerie?
Bien, déjà, bon, il faut quand même dire une chose, c'est que ça n'est tous les francs-maçons ne font pas partie de ces services, hein, bien entendu. Il y a en franc-maçonnerie des gens qui sont sincères et honnêtes, mais c'est vrai que bon, ça ne m'a pas surpris du tout, puisque j'ai eu l'expérience non pas d'une affaire aussi grave que celle d'Atanor, mais j'ai eu l'expérience de, comme je vous le disais, de présence de personnes qui faisaient partie de certains services en franc-maçonnerie, qui sont bien entendu minoritaires. Mais j'ai par exemple, dans mes archives, le cas de deux dirigeants de grandes entreprises qui se trouvaient en Côte d'Ivoire, qui faisaient partie également de loges maçonniques et qui ont été inculpés pour trafic de cocaïne. Donc, je pense que la franc-maçonnerie, si vous voulez, c'est un petit peu comme la société elle-même. Et il y a des bons et des moins bons, et des honnêtes et des malhonnêtes, étant précisé que les malhonnêtes sont, à mon avis, bien plus minoritaires. Mais encore une fois, j'insiste, et j'en parle dans un ouvrage que j'ai publié il y a 2 ans, je crois, qui s'appelle « Politique et franc-maçonnerie », publié chez Artege, et où je décris les vicissitudes de certains hommes politiques ou de certains courants politiques à travers la franc-maçonnerie, voire de la franc-maçonnerie grâce à la politique.
Mais justement, moi, ce qui me surprend, c'est que généralement, on voit la franc-maçonnerie eh bien comme un groupement de personnes qui, effectivement, ont des idées qui sont similaires. Là, on voit que ces personnes, pour le coup, étaient réunies, je reviens sur l'affaire Atanor, hein, mais étaient réunies plutôt par volonté de se faire de l'argent, par volonté de commettre des crimes. Là, on parle, enfin voilà, je vais citer encore une fois, hein, mais d'autres affaires, mais en 2018, eh bien, une employée de la direction des achats de Mercedes-Benz qui est rouée de coups, voilà, dans une affaire d'espionnage industriel, une agression d'un couple d'entrepreneurs qui avait une dette de 300 000 euros, un incendie criminel, enfin, en fait, en l'occurrence, là, il y a une affaire énorme quand même, avec des ramifications très larges, finalement, qui a été organisée au sein de la franc-maçonnerie. Comment ça se fait que finalement des personnes qui se disent unies par un idéal humaniste ou je ne sais quoi, finalement se retrouvent à essayer de réaliser des tentatives d'assassinat et des crimes aussi graves pour de l'argent?
Eh bien, tout simplement parce que l'idée que la franc-maçonnerie est une société humaniste, de bienfaisance, de progrès, n'est qu'un vernis. Effectivement, il y a un aspect que l'on va appeler politique dans la franc-maçonnerie ou sociétal, qui consiste à croire, à être persuadé que le bonheur ne peut arriver que par le progrès, notamment le progrès technologique. Ça, c'est quelque chose qui provient même du 19e siècle, qui n'est pas propre à la franc-maçonnerie, mais que la franc-maçonnerie a reprise à son compte. De même est un vernis, et c'est d'ailleurs le thème de mon dernier livre que vous avez cité, est un vernis l'aspect plus ou moins chrétien ou déiste de la franc-maçonnerie.
Il y a aussi un second point qui est lié à tout cela. Vous parliez effectivement de la présence de commissaires de police, de hauts gradés de l'armée, de membres de la DGSE dans la franc-maçonnerie. Est-ce que pour faire carrière dans certains services, il faut être franc-maçon?
Ah ben écoutez, ça n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui réussissent très bien sans cela, mais c'est un argument de poids. Je peux témoigner d'une expérience personnelle. Comme vous l'avez dit, j'ai été haut fonctionnaire territorial Et j'ai souhaité un jour changer de poste pour un emploi plus, qui me paraissait plus important. En fait, je passais d'un emploi de directeur communal à un emploi de directeur départemental. J'ai fait acte de candidature et j'ai reçu, peut-être 10 jours, 15 jours après, une acceptation de ma candidature sans que j'ai été, ce qui est tout à fait contraire à l'habitude, sans que j'ai été auditionné ou que je sois passé devant une commission quelconque. En fait, tout simplement, à l'époque, j'avais une signature maçonnique et le président de l'organisme qui m'a recruté était lui aussi franc-maçon et je l'ignorais. Lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, je l'ai vu dans son bureau, je lui ai tendu la main en lui parlant comme, je dirais, le protocole l'exige, en m'adressant à lui, « Bonjour, monsieur le président ». Lui me tend la main, me fait une poignée de main maçonnique et me dit « Bonjour, mon frère, assieds-toi ». Donc, du coup, on s'est tutoyé et le président était franc-maçon. Et voilà ça. Alors, je dis cela parce que, ayant pris ce poste de direction, j'ai regardé les candidats qui m'avaient été opposés et je peux témoigner que je pense qu'il y en avait de bien meilleurs que moi.
Et donc, est-ce qu'il y a des niveaux où, justement, on va dire que la franc-maçonnerie est tellement présente dans certains milieux que on peut être bloqué, on peut voir bloquer sa candidature pour ne pas être dans la franc-maçonnerie ou pour refuser d'être dans la franc-maçonnerie.
Oui, ça peut arriver. J'ai plusieurs témoignages, mais j'en ai un dont je me souviens parce que j'ai passé une dizaine d'années à donner des conférences. Un jeune homme est venu me voir en me disant que son père était un entrepreneur assez connu dans la région et qu'il avait fait l'objet d'une demande d'intégration de la franc-maçonnerie de la part d'un franc-maçon de haut niveau. Et lui, étant catholique, ce monsieur avait donc refusé d'aller en franc-maçonnerie, d'entrer en franc-maçonnerie. Et le franc-maçon lui a répondu, bah, « Écoutez, vous risquez de perdre beaucoup de clientèle. » Oui, ça peut arriver.
Et alors, question d'un auditeur qui vient comme ça, je la prends tant que je l'ai sous les yeux. Est-ce que quand on quitte la franc-maçonnerie, on garde quelque chose du réseau ou alors est-ce qu'on est considéré comme justement un traître, un exclu
Ah ben écoutez, je prends mon cas personnel. Moi, j'ai été considéré probablement, puisque j'ai quitté la franc-maçonnerie simplement parce que j'ai retrouvé la foi et donc il m'est apparu que la doctrine maçonnique et l'enseignement de l'Église étaient totalement incompatible. Je m'en suis aperçu petit à petit. Ça m'a été confirmé par des textes de l'Église dont j'ai pris connaissance. J'ai été considéré simplement comme un illuminé au sens négatif du terme, comme un traître probablement, puisque j'ai écrit des livres sur la franc-maçonnerie, sur l'incompatibilité d'être franc-maçon et catholique. J'ai fait des conférences, j'ai donné des conférences. Et oui, donc j'ai dû être considéré comme un traître. D'ailleurs, certains francs-maçons, parfois, dans mes conférences, ont été assez discourtois, voire à la limite de l'insulte. Et même dans certains journaux, j'ai eu droit à des colibés, presque à des insultes, en effet. Donc, effectivement, lorsqu'on quitte la franc-maçonnerie, non seulement on perd les possibilités de réseau que la franc-maçonnerie peut offrir, mais on est largement, surtout si on parle, on est largement morigéné.
Est-ce que, d'une certaine façon, vous avez dû subir des conséquences encore une fois, je refais le lien un petit peu avec cette affaire Atanor, mais est-ce que c'est possible, par exemple, qu'une personne qui est trop importante et qui quitte la franc-maçonnerie fasse eh bien, à des menaces, à des pressions, à des violences, peut-être de la part de son ancienne loge, ou alors est-ce que ça reste quand même des gens normaux quelque part et une organisation qu'on peut quitter sans trop de conséquences?
Non, moi je n'ai pas eu de menaces à titre personnel, des insultes oui, pardon. Néanmoins, une dame qui participait à un repas, qui n'est pas franc-maçonne, mais certainement en présence de quelques francs-maçons, m'a prévenu un jour de faire attention parce que deux personnes qui étaient au repas, lorsque la conversation est arrivée sur ma personne et sur les livres que je publiais, une de ces personnes a dit « il ne faudra pas qu'il s'étonne s'il lui arrive des ennuis ». Bon, cela dit, je n'ai pas eu d'ennuis particuliers. Je pense que c'est des sortes de menaces en l'air. J'avoue que je ne crains pas particulièrement ces menaces. Si vous voulez, tant que vous n'empêchez pas ces gens-là d'exercer leur rituel, tant que vous ne les empêchez pas d'être francs-maçons, je ne vois pas comment on pourrait d'ailleurs y arriver. Effectivement, le fait d'écrire des livres et de donner des conférences est quelque chose qui est très mal vu par la franc-maçonnerie. Et comme je vous l'ai dit, c'est très très mal passé auprès de mes anciens frères. Ce dont je peux témoigner également, c'est que tant que j'étais un haut fonctionnaire proche du pouvoir politique, j'avais notamment dans ma loge, voire dans d'autres loges, de nombreux amis. Du jour où j'ai quitté la franc-maçonnerie, tout cela s'est dispersé et je n'ai plus personne de la franc-maçonnerie. Parfois, même quand j'en croise, vous savez, j'habite Narbonne, c'est une petite ville. Quand on va faire ses courses dans un des plus grands supermarchés, on croise parfois des francs-maçons. À part une ou deux personnes qui sont revenues un peu de leur animosité, eh bien, la plupart me tournent la tête.
C'est étonnant quand même, justement, c'est quelque chose qui est toujours compliqué à savoir avec la franc-maçonnerie, c'est est-ce que ce sont... sur quoi ont-ils réellement le pouvoir? Que dirigent-ils réellement? Et le fait qu'effectivement, un fonctionnaire normal quelque part, ou un avocat, je ne sais pas, de Narbonne ou d'une autre ville en France, puisse être franc-maçon comme puisse l'être un ministre de l'Intérieur au hasard, en réalité, justement, comment se répartit quelque part la franc-maçonnerie. Encore une fois, je reviens hein, des agents de la DGSE dans cette affaire Atanor, mais il y a aussi également de nombreux quelques professions comme justement parmi les fonctionnaires, parmi les avocats, etc., qui sont assez représentés dans la franc-maçonnerie. En réalité, jusqu'où s'étend leur réseau et jusqu'où s'étend leur pouvoir?
Eh bien, écoutez, comme je vous le disais tout à l'heure, avant de publier ce livre, voilà, qui s'appelle Franc-maçonnerie chrétienne, une imposture, j'ai publié un ouvrage qui s'appelait et qui s'appelle, puisqu'il est toujours disponible, Franc-maçonnerie et politique, les liaisons dangereuses. Donc, l'une des principales l'un des principaux domaines où la franc-maçonnerie est active, et je précise qu'elle est active de manière secrète, c'est-à-dire que ces gens-là ne vont pas dire au nom de la franc-maçonnerie je pense qu'il faut voter telle loi, ou du moins s'ils le disent, ils le disent en aparté à certains députés ou à certains hommes politiques. Eh bien, ils sont très actifs dans le milieu politique et bien entendu secrètement. Je démontre alors, je précise que dans mes ouvrages, je donne toujours des sources qui sont très fiables, notamment des sources maçonniques. Il y a environ 35% de membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, et en particulier à l'Assemblée nationale, qui sont francs-maçons. Donc, ça s'appelle la fraternelle parlementaire, c'est un groupement secret qui est encore plus secret que l'appartenance à la franc-maçonnerie, et ces gens-là sont à l'origine de plusieurs lois. Cette fraternelle avait été créée par deux francs-maçons de haut niveau, notamment un qui s'appelait Henri Cavaillé et qui était sénateur, et je cite d'ailleurs dans le livre sur la politique et la franc-maçonnerie ce que ce monsieur disait. Il disait en l'espèce, nous avons eu l'idée, alors je le paraphrase parce que je n'ai plus la citation exacte en tête, mais nous avons eu l'idée de créer cette fraternelle qui permettrait de faire avancer nos idées. Donc, on voit bien que c'est un processus secret dans le but d'obtenir une influence et de faire exercer la doctrine maçonnique dans l'ensemble de la société. D'ailleurs, dans le même livre, je cite un historien du début du XXe siècle qui, prenant acte lui aussi de l'influence maçonnique depuis la Révolution française dans le milieu politique français, dit « ils ont transformé la France en une immense loge ». Et nous avons également Pierre Simon qui était le grand maître de la Grande Loge de France, qui a œuvré pour que l'avortement, d'abord la contraception, puis l'avortement passe dans la loi française et soit voté, ce qui a été le cas. Et il explique que tout cela a été possible grâce au maillage maçonnique du territoire. Il le dit, il l'écrit.
Merci d'être avec nous. Et aujourd'hui, Serge Abad-Gallardo, chers auditeurs, effectivement, je rappelle que nous avons besoin de vous, que vous, finalement, si vous pouvez écouter cette matinale ce matin, eh bien, c'est grâce à vous-même, et donc, on a besoin de vous.
Nous avons besoin de vous et de votre soutien financier en particulier. Pour ce faire, eh bien, je vous invite à nous faire des dons en ligne sur cette adresse soutenir.rc.fr et d'adresser vos chèques à Radio Courtoisie 61. Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Voilà, et chers auditeurs, je rappelle également qu'à 8h20, nous recevrons Maître Solange Doumé qui nous parlera du procès Lafarge. Et tout de suite, nous revenons donc avec Serge Abad-Gallardo.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Serge Abad-Gallardo, je rappelle à nos auditeurs qui nous rejoindraient que vous êtes ancien haut fonctionnaire territorial, ancien membre des loges maçonniques du droit humain, auteur de plusieurs ouvrages dont La franc-maçonnerie chrétienne, une imposture qui est paru l'année dernière. Nous parlons aujourd'hui de, nous sommes partis de l'affaire Atanor pour également nous étendre un petit peu sur la franc-maçonnerie. Autre question d'un auditeur, Serge Abad-Gallardo, est-ce que au Rassemblement National on trouve des francs-maçons? Est-ce que finalement c'est quelque chose qui est tout à fait transpartisan, ou alors est-ce que c'est plutôt finalement le Parti Socialiste, les Républicains, le Centre qui sont surreprésentés dans cette franc-maçonnerie?
Alors, je ne peux pas vous dire s'il y en a beaucoup. À mon sens, donc je vais parler par hypothèse, le Front National avait été, et le Rassemblement National est aujourd'hui, largement rejeté par la franc-maçonnerie. Dans le livre dont je parlais précédemment, sur la franc-maçonnerie et la politique, je cite pratiquement toutes les obédiences françaises, à l'exception de la Grande Loge nationale française, qui avait appelé à voter au présidentiel contre Marine Le Pen et pour M. Macron. Il faut savoir également que dans l'entourage de M. Macron, il y a toujours certainement de nombreux francs-maçons haut placés. Je ne vais pas donner des noms puisque je ne suis pas là pour ça. Mais ces gens-là ont créé une fraternelle.
Serge Abad-Gallardo, oui. Mais en l'occurrence, naïve quelque part, et pourquoi ne pas donner de nom quelque part, est-ce que vous craigniez de donner des noms
ça n'est pas cela, mais il faut savoir que la franc-maçonnerie est tellement infiltrée dans divers milieux de l'État et de la justice, que donner des noms peut vous voir mis en cause devant la justice. Donc j'évite de le faire, sauf lorsque ces personnes-là ont elles-mêmes avoué qu'elles faisaient partie de la franc-maçonnerie. C'est vrai que savoir que tel ou tel n'est pas franc-maçon, ça n'est pas forcément le plus intéressant dans la franc-maçonnerie. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des ministres, des très hauts fonctionnaires, et qu'il y a tout un maillage parmi des hauts fonctionnaires d'État, voire dans la justice également, des avocats qui sont francs-maçons. Il y a eu par exemple le cas d'Éric de Montgolfier qui a été procureur à Nice et qui, de son propre aveu, hein, ça, j'ai des références là-dessus, a été morigéné par une ancienne garde des Sceaux pour avoir critiqué la franc-maçonnerie qui intervenait directement dans des procès que lui devait instruire.
Et alors, justement, comment ça se traduit? C'est-à-dire que c'est, par exemple, dans le domaine de la justice, est-ce que c'est une affaire de cooptation? Par exemple, si l'un est condamné, l'autre va le protéger? Est-ce qu'au contraire, par exemple, la solidarité se manifeste d'une façon à ce que eh bien, quelqu'un a un procès, un avocat franc-maçon se porte immédiatement à son secours gratuitement? Enfin, comment est-ce que ça marche exactement, cette idée de retour d'ascenseur?
Ben écoutez, selon le témoignage de M. de Montgolfier, un juge du tribunal de grande instance de Nice mettait les dossiers de francs-maçons qui étaient ennuyés par la justice, en tout cas recherchés par la justice, il les mettait en dessous de la pile. Donc le procès n'avait pas lieu ou était largement retardé. Ce sont des pratiques qui peuvent arriver. Alors, ça n'est pas systématique. Il y a des francs-maçons qui ne fonctionnent pas comme ça, mais il y a de nombreux cas où l'entraide maçonnique, qui est une obligation, qui est un engagement de chaque franc-maçon vis-à-vis de ses frères et sœurs, fonctionne de manière tout à fait anormale.
Et alors, sur un autre plan, hein, je reviens un petit peu sur l'affaire Atanor dans le fond. Beaucoup de comportements quelque part un petit peu étranges sont décrits auprès des justement des personnes soupçonnées. Dans le fond, est-ce que la franc-maçonnerie justement va impliquer certaines attitudes, certains comportements sociaux? Est-ce que ça va impliquer d'être est-ce que ça rend quelqu'un différent dans la vie, ou alors est-ce que c'est simplement comme on adhérerait à un club et où on irait faire des quelque part des rituels dans son coin une fois qu'on se rendrait au club? Est-ce que c'est quelque chose qui est intégral finalement, la franc-maçonnerie?
Alors il y a trois sortes de francs-maçons selon ce que j'ai pu identifier. Il y a des francs-maçons qui vont rentrer en franc-maçonnerie par cooptation grâce à des amis qui en font partie, qui le leur ont avoué. Mmh. Ces gens-là sont des arrivistes et n'ont aucun sens d'aucune spiritualité, parce que la franc-maçonnerie prétend fonctionner dans le sens d'une spiritualité particulière. C'est un peu le thème de mon dernier livre. Il y a ensuite des francs-maçons qui sont plus versés en politique et qui s'estiment être un petit peu les descendants de Robespierre. On a un exemple, mais ça n'est pas le seul, Monsieur Mélenchon, qui a été, je crois, et toujours, puisque généralement, quand on ne quitte pas la franc-maçonnerie pour revenir à la foi catholique ou orthodoxe ou autre foi religieuse qui est incompatible avec la franc-maçonnerie, eh bien, on reste franc-maçon toute sa vie, même si on part. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit la franc-maçonnerie. Et je crois savoir que Monsieur Mélenchon, qui appartenait au Grand Orient, est un admirateur de Robespierre, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, je le connais mal. Ça n'est pas un personnage qui m'intéresse particulièrement, mais ce que je crois avoir entendu dire. Et puis, la troisième catégorie, c'est un peu la catégorie dont je parle dans mon dernier livre qui s'appelle « Franc-maçonnerie chrétienne, une imposture ». Ce sont des gens qui recherchent une spiritualité particulière ou un rapprochement avec une divinité qui n'est pas le Dieu des chrétiens. Souvent, la franc-maçonnerie fait volontairement la confusion pour… tromper les gens et notamment les catholiques. Ce sont des gens qui sont en recherche d'une spiritualité, d'une transcendance, mais en fait, il n'y a pas de transcendance ni de véritable spiritualité en franc-maçonnerie, puisqu'il n'y a pas d'esprit saint. Mmh.
Et alors, sur un point de vue autre, justement, on parle beaucoup de ces loges françaises. D'un autre côté, on sait qu'il existe des loges dans de très nombreux pays dans le monde. Est-ce que, justement, ça participe à la création d'une sorte de réseau tentaculaire mondial? Ou alors, est-ce que vous diriez plutôt que chaque loge fonctionne en autonomie au niveau national et qu'il y a de temps en temps quelques accords?
Eh bien, ce sont les deux cas qui se présentent. Chaque loge est autonome. En fait, vous avez, il faut quand même définir pour vos auditeurs en particulier, un peu la terminologie. Vous avez ce qu'on appelle les obédiences. Une obédience, c'est en fait la représentation nationale d'une catégorie de franc-maçonnerie. On a par exemple le Grand Orient, la Grande Loge de France, la Grande Loge Nationale de France, le droit humain, etc. Ça, ce sont les obédiences. Ensuite, il y a les loges. Alors, parfois, on dit loge pour dire obédience. J'appartiens à la loge du droit humain, mais plus précisément, surtout les francs-maçons, lorsqu'ils parlent de loge, c'est la cellule locale qui contient entre 20 et 40 personnes. Voilà. Alors, les loges sont autonomes, mais elles sont autonomes jusqu'à un certain point, puisqu'elles dépendent de l'obédience elle-même, d'ailleurs, et elles ont nécessité d'obtenir une autorisation pour se créer, autorisation qui est donnée par l'obédience. Donc, les loges sont relativement autonomes jusqu'à un certain point. Mais il y a, bien entendu, je dirais, un maillage mondial de la franc-maçonnerie à deux niveaux. Par exemple, pour le droit humain auquel j'ai appartenu est une obédience qui est internationale. Donc, il y a un droit humain français, un droit humain italien, un droit humain espagnol, etc. Et évidemment, une gouvernance internationale du droit humain. Il y a.
Qu'est-ce que vous entendez par là de gouvernance internationale du droit humain?
Eh bien, il y a en fait des gens qui sont les dirigeants du droit humain au sens international, simplement. Si vous voulez, vous avez une gouvernance purement française, avec un grand maître de l'ordre, et puis vous avez un grand maître international.
D'accord.
Et vous avez donc ensuite, pour les autres obédiences qui ne sont pas internationales, comme le Grand Orient, il y a par exemple un Grand Orient français, un Grand Orient italien, un Grand Orient espagnol, qui ne sont pas forcément reliés entre eux, mais il y a une instance internationale de coordination, plus que de gestion, de coordination de toutes ces obédiences et de la franc-maçonnerie en général.
Et cette coopération finale, parce que d'une certaine façon... voilà, les questions qui se posent autour de la franc-maçonnerie sont souvent les mêmes. Il y en a une que je vais poser de façon un petit peu exagérée et brutale, mais sans doute que vous allez pouvoir répondre aussi. Mais est-ce que, finalement, les francs-maçons contrôlent la France? Est-ce qu'on peut dire qu'ils contrôlent des pays entiers? Est-ce qu'ils, quelque part, quelle est leur influence sur le monde?
Ben écoutez, je ne sais pas s'ils contrôlent des pays entiers, je peux parler de la France, et comme je vous l'ai dit, ils interviennent pour la création de lois, ça n'est pas moi qui le dis, hein, j'ai des sources que je cite dans mon avant-dernier livre, de nombreuses lois françaises sont d'abord discutées en loge, élaborées en loge, et ensuite élaborées au Parlement et votées au Parlement. Par exemple, la loi sur l'euthanasie. La loi sur l'euthanasie est un projet éminemment maçonnique. Je ne suis pas le seul à le dire, d'ailleurs, puisque quelqu'un qui a écrit également un peu avant moi, qui s'appelait Maurice Caillé, le dit également, qui était également, comme je l'ai été, membre des ce qu'on appelle les hauts grades, c'est-à-dire la franc-maçonnerie encore plus secrète et de niveau supérieur. L'euthanasie est une loi... Enfin, provient d'une volonté maçonnique. La crémation est également une loi qui a été mise en place au XIXe siècle par la franc-maçonnerie. La preuve d'ailleurs que la crémation est purement maçonnique, c'est que quand elle a été légiférée, fin 19e siècle, il n'y avait pratiquement pas de crémation puisque l'Église l'interdisait d'une part et ça n'était pas entré dans les mœurs. Mmh. Et bien entendu, les francs-maçons sont minoritaires en France en termes numériques. Et que, moi j'ai des chiffres là sur ce thème, elle commence à prendre corps véritablement d'un point de vue quelque peu numérique, même si elle est encore minoritaire, à partir de la moitié ou la fin du XXe siècle. Donc on voit bien que c'est un projet maçonnique et pas une demande de la société.
Et quelque part, est-ce que c'est ce genre de choses, est-ce que vous l'avez su justement en interne, est-ce que vous avez été, est-ce que ça fait partie quelque part des sortes de secrets maçonniques, justement tout l'héritage de la franc-maçonnerie, tout ce qu'ils ont pu, tout ce qui a pu être réalisé par la franc-maçonnerie. Et d'autre part, question qui est un petit peu à côté, mais on a l'impression que les francs-maçons se concentrent essentiellement, de ce que vous décrivez en tout cas, sur les sujets purement sociétaux, qui relèvent purement eh bien, de la vie, on va dire, d'une certaine façon.
Mais oui, bien entendu, puisque, si vous voulez, bon, je vais être obligé de faire une légère digression, vous avez des obédiences laïques, le Grand Orient, par exemple, vous avez des obédiences déistes, la Grande Loge Nationale Française, par exemple,
Ou déiste, pardon, c'est le fait déiste, oui. Pour un franc-maçon, c'est quoi? C'est le fait de considérer qu'il y a un grand architecte du monde qui est-ce que c'est aussi caricatural que ça, presque, ou
Oui, alors ils utilisent le terme de déiste, mais tout ça c'est un leurre, puisque je démontre dans mon dernier livre qui s'appelle Franc-maçonnerie chrétienne, une imposture, que le grand architecte de l'univers n'est absolument pas le dieu trine des chrétiens. La preuve, c'est que dans la maçonnerie qui se dit chrétienne, qui est donc encore plus déiste que les déistes, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien, on ne parle pas de la Trinité, mais on parle du ternaire.
Oui.
Et on parle du ternaire en termes purement alchimiques. Ces gens-là vont même jusqu'à faire coïncider prétendument le Père, le Saint-Esprit et le Fils avec des segments alchimiques, avec des éléments alchimiques. Voilà.
Donc c'est une manière de le détourner. Et sur la question du sociétal, justement, est-ce que les francs-maçons ont des idées quelque part dans tous les domaines de la société qu'ils veulent appliquer, ou alors, encore une fois, est-ce qu'ils se concentrent exclusivement quelque part sur des lois comme l'euthanasie, l'avortement ou les lois progressistes, comme on les appelle?
Ben, si vous voulez, moi, ce dont je peux témoigner, c'est que les idées sociétales, voire politiques d'ailleurs, de la franc-maçonnerie proviennent directement du fond ésotérique. Donc, si vous voulez, les différentes obédiences, donc déistes, laïques et chrétiennes, ne sont que des variantes formelles d'un même fond ésotérique. Alors, ça n'est pas moi qui le dis simplement, moi j'en témoigne personnellement, mais vous avez la Grande Loge Nationale Française, qui est une obédience déiste et qui se considère comme la plus authentique de la franc-maçonnerie. Je cite, « Le fond maçonnique est le même dans tous les rites, mais chacun d'entre eux s'exprime selon un style spécifique. » C'est un petit peu, pour que les auditeurs comprennent mieux, c'est un petit peu comme dans les ordres religieux catholiques. Eh bien, vous avez des jésuites, vous avez des bénédictins, vous avez des franciscains, etc. C'est la même foi, c'est le même Dieu, c'est la même religion, mais elle s'exprime avec une spiritualité différente.
Mais pourtant, vous expliquez aussi que le Grand Orient de France, par exemple, est une loge, si j'ai bien compris, athée, c'est-à-dire qu'il considère qu'il n'y a pas de Dieu. Donc comment on peut avoir la même spiritualité entre une loge théiste et une loge athéiste?
Eh bien, tout simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'idée de Dieu en franc-maçonnerie est un leurre. D'ailleurs, le grand architecte de l'univers est un symbole, ça n'est pas une personne, ça n'est pas un dieu, c'est une force plus ou moins cosmique. Alors, il faut savoir également que la franc-maçonnerie utilise souvent des multitudes d'interprétations pour mieux, pour utiliser une expression un peu triviale, pour mieux noyer le poisson, c'est-à-dire que cette multitude d'interprétations permet à la franc-maçonnerie de se défendre lorsqu'on la questionne ou lorsqu'on veut mieux traquer ses secrets, ils vont vous répondre « mais oui, mais le grand architecte, c'est un symbole », d'autres vont dire « oui, mais c'est... »
Oui, parce que il y a quelque chose qu'on a... Pardon, excusez-moi, Serge Abad-Gallardo, mais il y a quelque chose qu'on observe beaucoup ces dernières années, notamment sur les réseaux sociaux, c'est que, tout simplement, sur, bah, voilà, sur Twitter, sur YouTube ou sur Instagram, on voit des entretiens qui sont réalisés par certaines chaînes, par certains médias, des entretiens de francs-maçons, et en l'occurrence, on voit qu'il y a une vraie communication qui se réalise de la part des francs-maçons ces dernières années.
Ah ben bien entendu, en fait, la franc-maçonnerie fait du prosélytisme. Alors d'une part, elle prône le secret, puisque lorsqu'on est franc-maçon, on n'a pas le droit de dévoiler qu'un tel ou une telle fait partie de la franc-maçonnerie. On peut éventuellement dire qu'on est soi-même franc-maçon, mais c'est largement déconseillé, pour différentes raisons, notamment parce que ça peut permettre de dévoiler ce que l'on fréquente. Mmh. D'autre part, elle fait toute une opération de communication. Je vois régulièrement sur Internet ou même sur les actualités que je vois sur mon iPhone des loges maçonniques qui font visiter les temples. Et j'ai même vu un grand maître dire nous n'avons aucun secret à cacher.
Oui.
Ce qui est parfaitement faux, puisque tout le long du rituel, je disais tout à l'heure, j'ai fait 24 années de franc-maçonnerie. J'ai compté le nombre de fois où j'ai prêté serment de garder le secret, et elle se totalise à peu près à un demi-millier. Donc,
oui.
Si on, vous voyez, on régulièrement le franc-maçon prête serment de garder le secret. Donc, il y a véritablement un secret. D'ailleurs, j'ai publié également un livre qui s'appelle Secret maçonnique, où je dévoile les différents aspects du secret maçonnique.
Et justement, ce qu'on pourrait trouver surprenant, encore une fois, c'est que pour des personnes qui dévoilent ces secrets, que effectivement vous n'ayez subi aucune conséquence de ça, alors que finalement, ça veut dire que vous avez quelque part révélé tout ce qu'il y avait de si particulier dans leur spiritualité.
Alors, il n'y a pas de conséquences physiques. Hein. Je n'ai pas été agressé, j'ai été insulté. Ce dont je peux témoigner, c'est que un certain nombre de portes se sont fermées. Par exemple, en tant que haut fonctionnaire, j'avais bien entendu mon emploi, mais j'étais également chargé de cours dans une université. Alors, c'était pas de nombreuses heures. J'avais environ une trentaine ou une quarantaine d'heures par an. Je n'ai plus été sollicité.
Mmh.
Donc là, je sais très bien d'où ça vient. Je ne donnerai pas là aussi de nom, mais la personne qui est à l'origine de ça est un franc-maçon également bien placé.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Serge Abad-Gallardo. Je rappelle que vous êtes ancien haut fonctionnaire territorial, ancien membre des loges maçonniques du droit humain, auteur de plusieurs ouvrages, dont « La franc-maçonnerie chrétienne ». Une imposture parue en mai 2025. On invite nos auditeurs évidemment à se fournir vos différents livres, voilà, aux éditions Artege. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Effectivement, on a pas mal dérivé du sujet initial qui était cette loge Athanor. Mais enfin, c'était très intéressant aussi de pouvoir faire ce tour d'horizon de la franc-maçonnerie. Merci beaucoup Serge Abad-Gallardo et puis on vous dit à une prochaine sur Ligne Droite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, dans un instant, ce sera la chronique d'Alice Cordier qui sera avec nous. Et puis à 8h20, nous parlerons du procès de Lafarge en compagnie de Maître Solange Doumic. Plus tard, à 8h45, la chronique de Jean-Eudes Gana. 8h57, celle de Ludovine de La Rochère. À 9h05, nous retrouverons Nicolas Delange, écrivain, auteur de Découvrons-nous Gaulois, récemment paru, qui nous parlera de nos ancêtres les Gaulois. Voilà, chers auditeurs. Et puis ensuite, ce sera la chronique de SOS Chrétien d'Orient par François-Xavier Jiquel. La revue de presse de Gilles Brochat. Enfin bref, tout un programme que vous appréciez beaucoup, chers auditeurs. Je le sais, mais d'abord, un petit rappel des titres de l'actualité avec Julie Solveig.
Alors que le blocus naval américain se poursuit, l'Iran menace désormais de bloquer l'ensemble des grandes routes maritimes régionales du Golfe Persique jusqu'à la mer Rouge. Il s'agit d'une déclaration officielle de l'armée iranienne qui évoque la possibilité d'empêcher toute circulation commerciale dans ces zones stratégiques. Malgré 700 000 voix citoyennes contre la proposition de loi portée par la députée Renaissance Caroline Yadan, la pétition ne sera finalement pas examinée dans l'hémicycle. Plusieurs voix, notamment issues de la droite nationale, dénoncent une dérive liberticide. À Nice, le maire Éric Ciotti appelle Emmanuel Macron à rétablir les contrôles à la frontière franco-espagnole après le lancement par Madrid d'un vaste plan de régularisation pouvant concerner environ 500 000 sans-papiers. Ce décret entrera en vigueur à partir du 20 avril. Et nous célébrons en ce 16 avril Saint-Benoît-Joseph Labre et Saint-Druon.
Merci Julie Solveig.
Ligne droite.
Et nous retrouvons Alice Cordier qui, je crois, est présente parmi nous par téléphone. Alice, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, bonjour Alexandre, comment allez-vous ?
Eh bien écoutez, ça va, j'espère que vous, de même, depuis votre endroit, votre province française où visiblement le Wi-Fi ne passe pas et où la connexion est absente, alors de quoi allez-vous nous parler ce matin ?
Tout à fait, alors je voulais vous parler de quelque chose qui, moi, m'inquiète énormément, c'est que le gouvernement envisage un plafond carcéral, limitant le nombre de détenus avec des libérations anticipées possibles au-delà d'environ 130% de taux d'occupation afin de réduire la surpopulation et supprimer les matelas au sol. Alors du coup, visiblement, notre gouvernement s'inquiète beaucoup pour le sort de nos petits prisonniers et plutôt que de construire de nouvelles prisons, comme d'ailleurs ce qui avait été plus ou moins promis par Gérald Darmanin, eh bien ce dernier préfère lutter contre le fait que nos pauvres petits prisonniers soient obligés pour certains de dormir à même le sol et du coup, au lieu de construire des places de prison, eh bien on va les libérer. Jusqu'à 6876 détenus pourraient être concernés. Selon le dispositif envisagé, l'incarcération d'un nouveau détenu pourrait nécessiter la libération d'un autre, indépendamment de la gravité des faits ou de la peine restante. Le projet porté par le ministère de la Justice a été transmis au Conseil d'État et pourrait être prochainement présenté au Conseil des ministres avant un examen au Parlement européen. Et ça m'inquiète, au Parlement tout court, pardon, pas du tout européen. Et ça m'inquiète énormément puisque, rappelez-vous, l'étude de l'Institut pour la Justice qui mettait en avant les chiffres du casier judiciaire national qui donnent les peines moyennes prononcées par la justice pour tous les délits. On avait découvert à ce moment-là que les peines maximales n'étaient quasiment jamais appliquées, ce qui était déjà un véritable problème, notamment quand il s'agit de meurtre, de viol, etc. Et donc, ça signifie là qu'en plus, on aurait des personnes qui pourraient non seulement ne pas avoir les peines maximales, mais sortir plus tôt que prévu. L'IPJ, donc l'Institut pour la Justice, était allé comparer les peines moyennes avec les peines prévues par le code pénal. Et par exemple, un vol simple, c'est un jugement qui normalement peut aller jusqu'à 3 ans. Et ben, généralement, les juges prononcent 19% de la peine encourue. Pour les coups et blessures volontaires, normalement, ce sont des peines qui, selon la gravité, peuvent aller jusqu'à 10 ans. Mais la peine moyenne prononcée est en moyenne de 9,9 mois. Et là, aujourd'hui, on se rend compte qu'en plus du fait qu'on a des peines maximales qui ne sont pas appliquées, eh bien, nous aurons des détenus qui pourraient sortir plus tôt. Et moi, ça me rappelle une affaire qui m'avait littéralement traumatisée. C'était à la période du Covid. C'était l'affaire Thomas Carbonel, rappelez-vous, donc ce jeune garçon qui aurait eu 29 ans d'ailleurs là en 2026, qui n'avait pas croisé le chemin de Hakim, qui l'a poignardé de 8 coups de couteau, car Thomas l'avait empêché de ramener de force une jeune fille chez lui après une soirée. Lors du procès, Hakim prendra d'ailleurs 25 ans de prison. Pendant d'ailleurs son procès, il a asséné aux parents de Thomas « Si j'avais su, je lui aurais écrasé la tête au sol ». Mais si Hakim a croisé le chemin de Thomas, c'est surtout à cause de Nicole Belloubet, car pendant le Covid, en 2020, elle a fait libérer tout un tas de prisonniers pour des questions d'urgence sanitaire. Hakim a bénéficié de ça, alors qu'il était en prison, tenez-vous bien, pour viol, après avoir violé un petit garçon avec une matraque. Il avait donc fait moins de 15 ans, c'était en 2005, il a donc fait moins de 15 ans, puisqu'en 2020, il était dehors, ce qui lui a permis, par la suite, de tuer Thomas Carbonel. Et quand on a un gouvernement qui utilise, soit donc on avait l'urgence sanitaire, soit l'urgence sanitaire dans les prisons du fait qu'on ait des détenus obligés de dormir au sol, etc. Et ben moi, ça m'inquiète beaucoup parce qu'on se retrouve toujours avec des détenus qui sortent plus tôt ou qui ne sont pas mis en prison. Parce que ça signifie quoi ? Que si même des détenus condamnés ne font pas leur peine entière de prison, c'est-à-dire aussi que des personnes qui pourraient être en préventive parce qu'ils ont commis des choses graves ne seront même pas placés en prison en préventive. Et c'est le cas notamment d'un procès qui va avoir lieu à Bordeaux cette semaine et qu'on va couvrir, d'une jeune fille qui a été violée par un homme qui avait déjà violé une dizaine d'autres jeunes femmes, et chez qui on a retrouvé en plus sur son ordinateur du contenu pédopornographique. Eh bien, cet homme, il est en liberté totale, simplement, voilà, parce que les juges ont considéré qu'il ne fallait pas le placer en préventive du fait qu'il n'y avait pas eu de procès. Toutes ses victimes ont porté plainte en même temps. Et de ce fait, cette personne qui, visiblement, est plutôt dangereuse, est actuellement en totale liberté. Cette jeune fille le croise parce qu'il travaille à la supérette en bas de chez elle. On arrive sur des situations qui sont absolument lunaires. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive sur quelque chose de dangereux. Et visiblement, le gouvernement compte bien mettre en place ce plafond carcéral. Malheureusement, elles, les victimes, elles n'ont pas de plafond quand il s'agit de la peine qu'elles ont, elles, à vie.
Et bien, heureusement qu'il existe des avions pour nous résoudre tous ces problèmes. Merci beaucoup, Alice Cordier, d'avoir sensibilisé sur ce sujet important. Et on vous dit à la semaine prochaine pour votre chronique. Moi, de mon côté, je laisse l'antenne à Richard de Sèze.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Ligne droite, débattons-en.
Et bonjour à tout le monde, et nous allons en débattre avec Maître Solange Doumic. Bonjour Maître.
Bonjour Monsieur.
Vous êtes l'avocat qui défendait une partie des prévenus dans l'affaire Lafarge, donc qui vient de connaître un développement saisissant, puisque donc Lafarge a été condamné, son ex-PDG Bruno Lafont a été condamné à 6 ans de prison avec incarcération immédiate. C'est un verdict qui a surpris tout le monde.
C'est un verdict d'une rare violence et dont l'incarcération immédiate est complètement inutile et contraire au droit, en fait. Puisque Bruno Lafont ni Christian Hérault, directeur général opérationnel que je défends, ne représentent un danger pour la société, ni un risque de récidive de l'infraction, ni un risque de fuite. Il n'y avait donc aucune raison de ne pas attendre l'appel. D'ailleurs, le parquet n'avait pas requis cette incarcération immédiate.
Alors, on sent que la présidente du tribunal, Isabelle Prévost-Desprez, a fait de cette affaire une affaire politique, idéologique, elle est en croisade, et elle a eu des mots assez surprenants pour justifier son verdict, en disant que Lafarge avait en fait financé le terrorisme international, que c'était un véritable partenariat commercial qui avait été établi avec l'État islamique, à un niveau de montant jamais atteint, une gravité extrême des faits. Elle a même carrément expliqué que c'était grâce à Lafarge que l'État islamique avait pu faire des attentats en France.
Alors, il y a trois absurdités dans ces propos. Le premier, c'est que ce serait un accord commercial. Lafarge n'a jamais, évidemment, voulu souhaiter un accord avec Daesh ni avec aucune des 20 factions qui les rackettaient. Ils ont supporté ce racket pour assurer la sécurité de l'usine. Ils ont certainement fait une erreur d'appréciation à l'époque. C'est une erreur d'appréciation qui est partagée par tout l'Occident. La deuxième chose, c'est que dire que Lafarge a financé les attentats, c'est grotesque au vu d'abord du montant de Daesh. Le budget de Daesh, c'est plus de 2 milliards par an, donc c'est absurde. Et au surplus, les montants du financement ont été énormément grossis par la décision. On est face à des versements qui ont été faits sous contrainte, mais à ces versements, les magistrats ont ajouté les acquisitions d'intrants, tout ce qui devait permettre de faire le ciment, donc le sable, la pouzzolane. Ces montants-là sont ajoutés, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils ont été achetés dans des carrières qui étaient tenues par Daesh. Autour des carrières, il y avait Daesh, mais si vous achetez votre pain en zone occupée, ben vous n'achetez pas votre pain à l'occupant, vous achetez votre pain au boulanger. Et ils ont rajouté aussi toutes les sommes qui étaient versées aux intermédiaires, les sommes qui ont été versées aux distributeurs. Et du coup, ça fait un amalgame terrible et ça multiplie les sommes par plus de 10.
Donc ça, c'est l'instruction qui a décidé d'avoir cette notion extensive de commerce, entre guillemets, avec l'État islamique. Mais il faut revenir sur l'erreur d'appréciation dont vous avez dit que c'était celle de tout l'Occident. Effectivement, au moment où commence cette guerre, Lafarge se retrouve, comme tout le monde, en train de se demander ce qui se passe, si l'État islamique va réussir à progresser ou non. Et surtout, on se retrouve avec, et il faut que les auditeurs fassent un retour de 10 ans en arrière, et même un peu plus, on nous explique à l'époque, Laurent Fabius, qu'il y a des bons islamistes et il y a des mauvais islamistes. Et les gens que choisit Laurent Fabius, ce phénix, en les désignant comme des gens tout à fait condamnables, sont en fait les terroristes de l'État islamique. Et donc Lafarge se retrouve à être racketté effectivement par des islamistes dont les autorités françaises disent que ce sont des braves types.
Mais oui, parce qu'à l'époque, tout le monde était polarisé sur la lutte contre Bachar el-Assad. Bachar el-Assad au pouvoir, la guerre civile, il faut abattre Bachar el-Assad. Il faut se rappeler qu'en août 2013, il y a l'attaque avec armes chimiques, enfin l'utilisation d'armes chimiques par Bachar el-Assad et que tout l'Occident laisse entendre qu'ils vont, dans l'espace d'une semaine, le raser. Et puis en fait, rien ne se passe. Et donc de 2012 à 2014, l'Occident a dit dans 3 semaines, dans 6 semaines, dans 1 mois, ce sera terminé. C'est ce que disait l'ambassadeur à mon client Christian Hérault, c'est ce qu'on voyait dans la presse, et l'important était de d'aider les milices qui luttaient contre Bachar el-Assad, quelle que soit leur identité. Bien sûr en tête l'ASL, l'armée syrienne libre, mais aussi toutes les factions qui gravitaient autour. Or là-bas, les factions étaient complètement labiles. Celui qui était un jour à l'ASL, le lendemain se trouvait au Jabhat al-Nostra, le jour d'après chez Daesh, et ça rechangeait.
Donc Jabhat al-Nostra, dont Ahmed el-Sharra est aujourd'hui président de la Syrie, et donc le fait que les gens de Lafarge n'aient pas mieux compris la situation syrienne paraît tout à fait légitime. Après tout, ce sont des cimentiers, ce ne sont pas des inspecteurs, des gens de la DGSE, ni des diplomates aussi fins que Fabius.
Non, et les diplomates eux-mêmes se trompaient. Et d'ailleurs, il est reproché à Lafarge d'avoir versé des sommes au Jabhat al-Nostra. Ça fait partie des 3 organisations terroristes dont on leur reproche le financement. Et pourtant, aujourd'hui, comme vous le dites, le chef du Jabhat al-Nostra est reçu à l'Élysée en grande pompe.
Alors, il faut quand même insister un peu là-dessus. C'est-à-dire, vous vous retrouvez à défendre une société, en tout cas deux de ses représentants, qu'on accuse d'avoir financé le terrorisme, parce que dans un contexte où on leur a expliqué que la Syrie allait devenir une démocratie libre en 3, 4, 6 semaines maximum, ils ont décidé d'assurer la continuité du service. Cet argument, est-ce que vous avez pu le faire entendre à la Cour ?
Nous avons fait citer des témoins, moi-même et les autres avocats des prévenus, l'avocat de Bruno Lafont, le PDG, etc. Nous avons fait citer des témoins, des experts géopoliticiens. À chaque fois, ils n'ont pas été entendus, ils ont été méprisés, il y a eu des ricanements à leur égard. Parce que ce n'étaient pas des juristes, on ne demande pas à des témoins de venir parler du droit, on venait leur demander de parler des faits. Nous avons eu Fabrice Balanche, qui est un professeur qui enseigne, qui est élève de Keppel, qui est un spécialiste de la Syrie, qui s'est déplacé en Syrie, même pendant la guerre civile, il traversait la frontière turque à pied pour aller voir sur place ce qui se passait. Patrice Franceschi, aventurier, écrivain, qui a été se battre aux côtés des Turcs contre Daesh. Georges Malbruno, journaliste au Figaro, qui a été lui-même otage et qui est spécialiste du Moyen-Orient. Ils sont venus expliquer à quel point la situation était difficile, inextricable. Le général Gomard aussi a dit à quel point Lafarge avait rendu service au service français et à la France en donnant des renseignements sans cesse quand Lafarge était sur place.
Le général Gomard, qui est eurodéputé aujourd'hui et qui, à l'époque, dirigeait le renseignement militaire.
Absolument. Donc, ces témoins-là sont venus, l'ont dit, et ça a été absolument inaudible. Dans la décision lue à l'audience, dans le résumé de la décision, pas un mot n'a été dit à décharge pour les prévenus.
Donc, répétons-le, voilà, ces prévenus étaient plongés dans un environnement diplomatique français qui leur expliquait d'une part qu'ils avaient le droit et même le devoir de soutenir ces factions puisqu'elles étaient contre Bachar el-Assad et d'autre part que, évidemment, le conflit allait être réglé très rapidement. Bon, ça ne s'est pas du tout passé comme les experts l'avaient prédit.
Non, c'est l'inverse, ça s'est enlisé, c'était de plus en plus difficile, de plus en plus inextricable et Lafarge a décidé de fermer fin août 2014. Le temps de fermer, c'était le moment où Daesh se trouvait autour de l'usine.
Alors, qu'est-ce qui est reproché à la Farge? On l'a compris, c'est le financement du terrorisme international. Dans l'acte d'accusation met en avant exactement quel crime, quel fait, quel...
C'est le nom du délit est financement de terrorisme. Donc voilà, c'est ce qu'on leur reproche. Les faits, c'est donc d'avoir supporté ce racket à partir d'octobre 2012, des factions qui environnent l'usine disent que si on ne paye pas des sommes, notamment pour le passage de checkpoint, ils ne laisseront plus passer les camions, les salariés, et la situation serait devenue dangereuse pour les salariés. Et à ce moment-là, un enlèvement, les salariés sont relâchés, mais qui montre que la pression monte. La question se pose de savoir si oui ou non l'usine doit être fermée. En octobre 2012, c'est le seul gagne-pain de tous les gens de la région. L'usine fait vivre environ 3000 personnes. La fermer, c'est une question très lourde. Et les dirigeants décident de la laisser ouverte. Un intermédiaire qui est actionnaire de l'entreprise, Firaslas, homme d'affaires syrien parmi les plus connus là-bas, se charge lui-même, s'auto-charge de cette sécurité et donc verse des sommes. On ne sait pas très bien ce qu'il verse, à qui il le verse. Et à partir de ce moment-là, il y a cette économie de racket qui se met en place. Les factions terroristes se greffent dessus à partir de novembre 2013. Et donc en septembre 2014, la Farge ferme.
Alors, ceux qui sont à l'origine de la plainte contre la Farge et qui aujourd'hui se félicitent de la vertu qui a triomphé, c'est entre autres l'association Sherpa, donc une ONG française, qui se fait un devoir de traquer l'argent sale dans le monde entier.
Oui. Et qui a imprimé à ce dossier une ligne complètement fausse depuis le début, qui est « La Farge agit uniquement dans le but d'un intérêt financier et pour faire de l'argent ». Et qui a imprimé à ce dossier l'idée que cette société avait été donc prête à tout pour gagner plus. Comme si le capitalisme allié avec le terrorisme faisait une alliance de deux sorcières épouvantables qu'il fallait évidemment brûler. Et personne ne s'est plus posé la question de savoir quelle était la raison pour laquelle l'usine était restée ouverte. La raison, c'est donc cette erreur d'appréciation que partageait tout l'Occident, qui était induite par l'Occident, qui d'ailleurs a été soulignée par Joe Biden dans une conférence à Harvard où il a dit « c'est nous, Occidentaux, qui avons financé Daesh en soutenant et en fournissant des armes à toute l'opposition syrienne ». Et cette erreur est certaine et n'a jamais apporté un sou d'argent personnel. Aucun de nos clients n'a eu un intérêt personnel à ce que cette usine demeure. Donc, Sherpa a imprimé un discours faux qui a imbibé tout le monde.
Alors, comment expliquer que l'instruction et ensuite le procès lui-même ait repris les thèses de Sherpa sans aucune distance?
D'abord, ils ont été les premiers à être entendus. Et celui qui est entendu en premier donne toujours un vernis qu'il est difficile d'ôter après. Et puis, il est toujours plus facile aussi de croire à quelque chose de simple. C'est simple de se dire que la Farge est restée juste pour faire plus de profit. C'est presque simple de se dire que de manière cachée, loin, ils avaient envie de traiter avec le terrorisme pour pouvoir avoir plus d'argent. Mais en fait, c'est faux. Et donc, toute situation humaine plus complexe, plus fine, ces dirigeants qui se posent la question, qui se disent bah, « en fait, on a des salariés, nous, la Farge, on a toujours été chinois en Chine, syriens en Syrie, donc il y a une guerre civile, on laisse pas tomber, on part pas comme ça. Une usine, c'est un magnifique outil de production, c'est donc un magnifique outil aussi pour toute la société qui entoure les gens, les personnes qui sont dans un pays, d'autant que ce pays est en guerre. Et un jour, quelqu'un m'a dit « Mais vous auriez jamais travaillé dans cette usine en Syrie ?» Ben, évidemment, j'ai la chance d'être française dans un pays qui est en paix et d'être très heureuse d'exercer mon métier. Je n'allais pas aller travailler dans une usine syrienne. Mais quand on est syrien, eh bien, qu'on voit la guerre qui s'abat autour de soi, les Syriens ont été très fiers et à juste titre, les salariés l'ont expliqué à la barre. Au moment du début de la guerre civile, quand il a fallu que tous les expatriés s'en aillent, les expatriés chinois qui faisaient tourner l'usine sur le plan informatique et technique, ont dû partir. Et là, ça a été une gageure, savoir si oui ou non les employés syriens sauraient faire marcher l'usine. C'était à eux de savoir s'ils voulaient, s'ils pouvaient. Ils se sont débrouillés pour le faire. C'était extrêmement difficile. Ils ont tous été extrêmement fiers. Donc voilà, fermer, c'était pas si simple.
Et aucun d'entre eux n'était terroriste, il faut le souligner.
Ah mais non, aucun d'entre eux n'était terroriste. Les employés syriens, ils ont été victimes de tout, victimes de la guerre civile, victimes après des difficultés de travail, victimes du fait que chez Lafarge, on ne s'est pas rendu compte de la violence de ce qu'ils vivaient, et que sans doute, là aussi, l'usine aurait dû fermer beaucoup plus tôt, même si leur le salaire avait été à ce moment-là interrompu, parce que c'était trop dangereux, mais qu'on ne s'en est pas rendu compte. Du siège, c'est pas évident non plus.
Surtout voilà. Avec Laurent Fabius en train d'expliquer qu'on est en train de mener le bon combat en soutenant les factions terroristes. Et donc, Sherpa donne ce « là » et on sent qu'effectivement, il y a une espèce de justice vertueuse qui s'abat sur le capitalisme international et qui, à travers Lafarge, punit toutes les entreprises françaises qui ont le culot de faire du profit dans les pays où on ne devrait pas en faire.
Oui, c'est exactement ça. Il y a une chose que je trouve plus triste, c'est que, sauf erreur, Sherpa est aussi soutenu par l'Agence française du développement.
Absolument. C'était ma question suivante. Alors, l'Agence française du développement, donc, qui est une officine d'État, soutient Sherpa et Sherpa passe sa vie à attaquer les entreprises françaises. Lafarge, Dassault, Bolloré, Michelin, BNP Paribas, Total Energy, enfin, on pourrait continuer la liste. Autrement dit, et l'association Sherpa et l'Agence française du développement tirent en permanence contre le camp français.
Ce que je trouve d'autant plus absurde, c'est que dans ce dossier, on a vu comment les Américains traitaient une affaire de ce type. Les Américains se sont emparés de cette situation quand la France a ouvert son... au moment où l'affaire a émergé. Et ils se sont emparés alors que rien n'avait été payé en dollars, qu'il n'y avait pas d'Américains, c'est une entreprise française avec des Français et des Syriens, enfin rien à voir, mais quand même. Et ils ont dit à Lafarge Holcim, qui avait racheté Lafarge, ou vous transigez avec nous, ou on vous interdit l'accès au marché américain, donc au territoire américain et aux entreprises américaines. Bon, donc Lafarge a transigé. Il y a eu un plea guilty. Au terme de ce plea guilty, les Américains ont obtenu la somme de 790 millions de dollars.
Donc un plaidé coupable de Lafarge, enfin de la nouvelle société qui possède Lafarge, auprès des autorités américaines qui n'avaient rien à voir, mais qui avaient juste la possibilité de rançonner un concurrent, donc c'est toujours bon à prendre quand on est un pays prédateur, et qui ont donc effectivement admis, pour des raisons purement commerciales, qu'ils allaient payer un droit d'entrée sur le marché américain de 790 millions de dollars.
C'est ça. Donc, ils ont admis cela, ils ont dit qu'ils étaient coupables, ils ont dit que jamais ils se sont engagés à ne jamais remettre en cause cette culpabilité. Donc c'était déjà un gros poids pour tous les dirigeants en France qui voyaient que l'entreprise disait que eux étaient coupables. Et puis voilà, les Américains s'en sont tenus là. En France, l'amende est de 4 millions d'euros et on met des dirigeants qui ont fait le mieux qu'ils pouvaient, qui sans doute se sont trompés, qui ont commis des erreurs d'appréciation, mais qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient. On les met en prison et on prend pas d'argent à l'entreprise. On est dans une absurdité complète, en fait.
Et on les met en prison avec des réquisitions très sévères. Et surtout, ce mandat de dépôt, donc cette incarcération immédiate qui est tout à fait surprenante. Vos clients, évidemment, sont sous le choc. Vous faites appel. Normalement, l'appel est suspensif et donc ils devraient sortir de prison.
Oui, nos clients sont présumés innocents. Et donc, j'ai déposé pour Christian Hérault, que je défends, une demande de mise en liberté. Et j'espère que la Cour d'appel va y faire droit très vite.
Alors, il y a cette mise en liberté, il y a le fait que le procès va recommencer, vous faites appel. Quelque chose aussi doit être souligné, c'est que Lafarge était une entreprise française. Lafarge a été rachetée, en fait, par une société étrangère, Holcim, si je ne m'abuse, donc un conglomérat en partie italien, partie suisse, etc. Et donc, on sent que le nouveau Lafarge n'en a rien à faire des anciens dirigeants et donc on passe tout le management français par pertes et profits.
Oui, c'est le cas, je pense, en tout cas pour Holcim. Lafarge reste Lafarge, même absorbée par Holcim. Et c'est vrai, on a eu l'impression que Holcim avait tout à fait l'envie de se débarrasser des dirigeants actuels. Enfin, passés, pardon.
Voilà. Et le... On se retrouve donc avec ce fleuron français condamné. Évidemment, l'affaire syrienne n'est pas arrangée. Évidemment, le terrorisme islamiste continue de faire rage. On va revenir un tout petit peu, là, dans les cinq minutes qui nous restent, sur le rôle de Sherpa et aussi de l'autre association, ECCHR. Donc, il faut que je retrouve ce que ça signifie. Le Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits humains, qui elle est une ONG plutôt allemande, ce sont deux sociétés qui sont financées par l'Open Society Foundations, autrement dit George Soros finance directement les deux ONG qui ont attaqué la Farge et cette ONG, donc Sherpa, qui passe sa vie à attaquer les Français. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu sur le tapis dans lors des débats ?
Non, jamais. Jamais. On n'a pas du tout abordé cette question-là. D'autant qu'on était, on n'arrivait déjà pas à mettre en avant les arguments évidents de l'erreur globale de l'Occident par rapport à ce qu'avaient fait nos clients, de l'information des services d'État qui était une évidence. Donc on ne sait pas.
On n'est pas. Parce qu'il faut rappeler que George Soros et l'Open Society Foundation. D'abord, il faut rappeler que George Soros a fait fortune en partie en spéculant contre le franc. Donc voilà. Donc ce n'est pas un ami de la France. Et il faut rappeler que l'Open Society Foundation, évidemment, a intérêt à diminuer l'influence française dans le monde. Donc elle le fait à travers ses petits bras armés. Aujourd'hui, donc Lafarge essaye de solder, enfin Holcim essaye de solder cette aventure syrienne. Tous ceux qui, à l'époque, expliquaient que ce n'était qu'une affaire de jours, voire de semaines, pour que le Bachar al-Assad tombe, ont témoigné, ou vous les avez fait témoigner, certains ont accepté. Le tribunal ne l'a pas entendu. Pensez-vous qu'au moment où l'affaire arrivera en appel, cet aspect des choses pourra être remis en avant ?
Ah oui, j'espère, parce que c'est essentiel. En fait, ne pas entendre ça, c'est ne pas entendre l'intention des gens, des prévenus. Donc, il faut qu'on puisse s'expliquer. En appel, j'espère qu'on aura du temps, beaucoup plus qu'en première instance, où nous avions demandé que ce procès soit audiencé sur plus de jours. Ça n'a pas été le cas. Donc, on était dans une sorte de marathon où, parfois, pendant plusieurs jours de suite, la défense n'avait pas le droit d'ouvrir la bouche, de poser des questions, de... Et c'était uniquement les questions à charge du tribunal qui étaient posées. Puis après, aller en 3 heures reprendre 4 jours d'audience, c'est impossible. Donc en appel, nous aurons du temps, j'en suis sûre, plus une écoute. Et il faudrait que les prévenus puissent expliquer ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont su, pourquoi ils ont agi. Pourquoi ils n'ont pas fermé ? Puisqu'en fait, le reproche qu'on leur fait, c'est non pas d'avoir passé un accord commercial, ça ce sont des mots... d'un jugement spectacle. Mais ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas avoir fermé. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fermé ? Et ils n'ont pas fermé parce qu'ils se sont trompés. Et ils se sont trompés parce qu'ils ont pensé que c'était mieux de rester ouvert dans ce contexte où Bachar el-Assad était censé tomber 15 jours après, dans ce contexte où, de toute façon, tout l'Occident armait les factions qui s'opposaient à Bachar el-Assad, dont se faire racketter par ces factions, ben c'était pas un drame. Je rappelle qu'il y avait 20 factions qui ont racketté la Farge. Et que, au fur et à mesure, la justice ne savait pas d'ailleurs lesquels il fallait leur reprocher. On nous a reproché, à un moment de l'instruction, d'avoir donné de l'argent à l'ASL. Puis après, on s'est rendu compte, tant problème, l'ASL, c'était tellement officiellement soutenu par tout le monde, dont par la France, on ne pouvait pas le faire. Donc on a arrêté.
On a enlevé l'ASL.
Voilà, on a enlevé l'ASL, on a mis autre chose. Bon, c'est quand même, c'est une histoire folle, où il faut pouvoir entendre les gens.
Alors, entendre les gens, on espère que ça va être le cas. Je voudrais revenir sur ce que vous nous avez dit et qui est tout à fait fascinant. Ces employés syriens qui témoignent 10 ou 15 ans après avoir quitté l'entreprise, ou peut-être en y étant encore, ça se trouve, cette cimenterie est toujours en activité. Le fait de les faire venir, c'est quelque chose là aussi qui n'a ni ému, ni fait bouger le tribunal.
Alors, l'usine a été fermée en septembre 2014. Daesh l'a envahi, très vite a été éjecté. Les Américains s'en sont servis comme base militaire. Aujourd'hui, elle est détruite, il n'y a plus personne dedans. Les salariés sont venus parce qu'ils étaient partie civile à la demande des associations qui les défendaient. Ils ont été évidemment très émouvants, très entendus, très émouvants parce qu'ils ont décrit les dangers qu'ils avaient vécus, dangers dont les dirigeants avaient plus ou moins conscience. Et puis, ils ont aussi parlé de leur travail. Il y en a certains qui ont dit à quel point ça avait été essentiel pour eux. Il y en a certains qui ont dit que Lafarge avait fait ce qu'il pouvait, mais c'était pas suffisant. Donc, ils se trouvaient de toute façon opposés aux prévenus. Donc, ils ont été entendus dans leurs paroles en ce qu'elles venaient réclamer quelque chose contre Lafarge. Ils n'ont pas été entendus dans leurs paroles quand, au contraire, elles rejoignaient celles des dirigeants.
Ah, donc effectivement, une écoute sélective. Merci beaucoup, Maître Doumic, d'être venu témoigner quasi à chaud de ce procès et de son verdict. Et évidemment, nous vous souhaitons, à vous comme à vos clients, la meilleure des chances pour la suite des événements.
Merci beaucoup.